Voilà pourquoi je vous prie d'incliner simplement vos têtes dans la prière. Nous voulons nous recommander à sa grâce, nous disposer à recevoir sa parole. Avant de te tendre, Seigneur, une oreille attentive, afin de recevoir ta parole, nous aimerions te dire merci pour ces moments merveilleux, ces moments bénis que nous venons de passer, Seigneur, en ta présence. Ce matin, en véritable Père, tu nous as accueillis en ta présence. Tu nous as accordé ce moment merveilleux. Ces moments qui nous ont permis de t'exprimer nos sentiments, de proclamer qui tu es, de nous réjouir devant ta face. Ces moments qui nous ont permis, Seigneur, de faire monter vers toi toutes sortes de prières. Oh, apprends-nous, Seigneur, à être de véritables adorateurs, à être des hommes et des femmes qui t'adorent en esprit et en vérité. Nous ne voulons pas être des formalistes. Nous ne voulons pas être, Seigneur, de traditionnalistes, de gens odieux qui réagiraient, Seigneur, comme de manière instinctive à quoi que ce soit, à un beau chant, mais plutôt nous voulons être des hommes et des femmes, Seigneur, qui s'approchent de toi et qui t'apportent une louange digne de toi, une adoration que tu agrées, Seigneur, des hommes et des femmes dont la prière est une véritable offrande, une offrande d'une odeur agréable. Merci d'avoir accueilli, Seigneur, non seulement notre prière, notre louange, notre adoration, mais aussi et surtout, merci de nous avoir accueillis en ta présence. Nous voulons y rester et recevoir ta parole depuis ta présence. Ce matin, Seigneur, nous avons besoin, oh Dieu, que tu nous parles. Nous avons besoin que ta parole puisse trouver des cœurs bien disposés pour l'accueillir. Ce matin, nous voulons, Seigneur, que tu puisses déposer ta semence, car ta parole est une semence incorruptible, et que cette semence finisse par germer et par produire du fruit pour ta gloire. Oui, parle-nous. Seigneur, révèle-toi à chacun de nous par le moyen de ta parole. En même temps, assiste ton serviteur, soutiens-le, donne-lui de proclamer ta parole, Seigneur, en étant en contact avec toi, en étant devant toi, en étant en communion avec toi, car c'est alors qu'il proclamera ta parole avec puissance, avec force, et que cette parole accomplira l'œuvre pour laquelle elle sera sortie. Merci pour tout. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, ça vaut la peine d'acclamer la parole de Dieu. Bien, nous allons poursuivre notre périple à travers la parole de Dieu, continuer donc notre enseignement, cette série de prédications sur les deux réalités de la parole de Dieu telles que nous les trouvons à travers toute l'Écriture sainte. Nous sommes donc en train de parler du Logos et du Réma. Si nous savons combien la parole de Dieu est importante, si nous comprenons combien elle est indispensable pour une vie de victoire, pour permettre à chacun de nous de demeurer dans le triomphe de la croix, eh bien, nous avons tout intérêt à regarder autour et alentour de ces deux concepts que la Bible, du moins le Nouveau Testament, utilise pour exprimer la réalité de la parole de Dieu. Nous avons réservé un temps, enfin quelques dimanches, pour parler du premier terme, à savoir le Logos. Et depuis le dimanche dernier, eh bien, nous avons commencé à parler du Réma. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec cette notion du Réma. Nous allons continuer donc avec tout cela, car comme vous le savez, nous sommes engagés, mes amis, dans une bataille spirituelle dont l'enjeu est notre salut, l'enjeu est notre éternité. Et dans ce combat, le Seigneur a pourvu à la victoire en mettant à notre disposition toute une panoplie spirituelle constituée d'armes puissantes et efficaces pour nous permettre de vaincre d'aller de victoire en victoire, de demeurer dans le triomphe de la croix. Le Seigneur a donc mis à notre disposition un arsenal extraordinaire et puissant, constitué d'armes puissantes, d'armes efficaces. Et parmi ces armes, telles que nous les trouvons dans Éphésiens 6, nous allons lire ce passage, il y en a deux, mes amis, qui sont des armes majeures, des armes principales. Il s'agit donc de la parole de Dieu qui nous est révélée comme étant l'épée de l'esprit et enfin de la prière, pas n'importe quelle prière, mais la prière par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Et la Bible conclut en disant « Veillez-y avec une entière persévérance ». Amen. Donc la parole, la connaissance de la parole est indispensable. Or, quand nous nous lançons dans l'étude, dans la méditation du Nouveau Testament, il y a tout de suite une réalité qui nous frappe, c'est que la Bible utilise deux termes grecs pour exprimer la réalité de la parole. Et en replaçant dans son contexte chacun de ces mots, eh bien, nous avons observé, nous avons vu qu'en effet, il y a une différence singulière entre les deux. Le logos étant de manière générale toute l'écriture sainte, le logos ayant été donné une fois pour toutes. Voilà, nous trouvons le logos à travers les 66 livres de la Bible pour nous, protestants évangéliques. Ça a été écrit une fois pour toutes. Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur. Eh bien, il est Sauveur non pas pour un homme, mais il est Sauveur non pas pour un jour, mais ad vitam aeternam. Vous voyez ? Soyez saints comme je suis saint, c'est une recommandation de la parole de Dieu qui est là et qui nous concerne tous. Peu importe l'époque, les moments où qu'on soit en hémisphère nord ou du sud, eh bien, cette parole, ce logos reste valable. Alléluia. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Eh bien, ben, c'est une vérité qui est là. Cependant, à côté de ce mot logos, nous trouvons un autre terme, à savoir le rhéma, qui lui est une parole personnelle, une parole circonstancielle, une parole spécifique pour un besoin particulier, pour un besoin, une attente particulière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, ça vaut la peine que je puisse replanter de nouveau le décor pour nous permettre de pouvoir poursuivre eh bien, notre réflexion, notre marche à travers la parole à la recherche encore d'autres révélations, d'autres lumières quant à ce terme ô combien important, aussi bien le logos que le rhéma. Nous allons donc parler de la parole de Dieu, le logos et le rhéma. Et nous allons relire une fois de plus. Et quand j'aurai terminé cette série de messages, je crois que chacun de nous pourra réciter ce passage de mémoire. Voilà. Au reste, fortifiez-vous. Nous sommes dans Éphésiens 6. Éphésiens 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 20, nous lisons rapidement. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable, surtout dans ces temps de la fin, dans ces temps où sévit la séduction, dans ces temps d'égarement, où nous voyons que les signes précurseurs podromiques du retour du Seigneur eh bien, sont là, eh bien, dans un temps pareil, nous avons tout intérêt à tenir ferme contre les manœuvres du diable eh bien, en utilisant toutes les armes de Dieu. Car, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Je reviendrai là-dessus plus tard, peut-être au cours d'un séminaire. Contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Il y a une insistance. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés ou les projectiles enflammés du malin. Prenez aussi, voilà le verset qui nous intéresse encore une fois de plus aujourd'hui, prenez aujourd'hui le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est donc la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit, et non de manière traditionnelle, machinale, par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance, priez pour tous les saints et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. Et le dernier passage, c'est donc dans Romains chapitre 10. D'abord le verset 8. Que dit-elle donc? Il s'agit de la justice. Que dit-elle donc? Il s'agit de la justice qui vient par la foi. Eh bien, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et verset 17, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons parler des applications pratiques de ce concept, de cette réalité de la parole de Dieu comme étant le Réma. Le verset 17 du chapitre 6 des Éphésiens nous dit ceci: prenez aussi le casque du salut et l'épée ou le glaive de l'Esprit, qui est donc la parole de Dieu. Eh bien, ici, c'est le mot Réma qu'on trouve. L'épée de l'Esprit, l'épée de l'Esprit qui est donc le Réma de Dieu. Ce n'est pas le terme logos qui apparaît ici. La précision est des tailles. Voyez-vous? Donc, c'est une fois de plus ce terme que nous trouvons dans ce passage. Il ne s'agit pas de la parole de Dieu en général, car nous le verrons plus tard, et vous l'avez certainement remarqué autour de vous, de gens qui utilisent la Bible, qui récitent des versets bibliques en face des démons qui essayent de reproduire comme des automates certains passages de la parole de Dieu. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, sans que quelque chose se passe. Ce n'est pas ça l'arme de l'Esprit. Ce n'est pas ça l'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit, c'est le Réma de Dieu. C'est une parole, et nous verrons, une parole que le Seigneur nous donne. Et cette parole inspirée, cette parole qui naît, qui jaillit d'une relation profonde, intime avec le Seigneur, devient, mes amis, entre nos mains, un véritable glaive, une véritable épée, capable de mettre tout démon, tout adversaire, le mettre en débandade. Donc, il ne s'agit pas du logos de la Bible écrite, voyez-vous, mais plutôt de la parole personnelle reçue de la part de Dieu dans notre communion avec lui, et cela par le Saint-Esprit. C'est donc cette parole reçue, cette parole que le Saint-Esprit suscite, dépose en nous, mes amis, qui va nous donner la puissance dont nous avons besoin pour faire face à tel ou tel autre problème, qui va nous donner la force, qui va nous donner le courage, l'assurance et la puissance pour pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car le diable peut utiliser toutes sortes d'outils afin de nous faire du mal, afin de nous séduire, de nous égarer, de nous arrêter dans notre épanouissement. Et c'est là que le Réma devient plus qu'indispensable. Et encore une fois, Vous ne pouvez pas recevoir ce réma-là si vous n'êtes pas en communion, si vous n'êtes pas en intimité avec le Saint-Esprit. C'est l'épée de l'Esprit. C'est le glaive de l'Esprit. C'est donc une parole qui vient de la part du Saint-Esprit et qui est appelée à trouver un cœur bien disposé. Et là, nous revenons à ce que nous avons déjà vu, mes amis, aux conditions que nous devons remplir en amont, c'est-à-dire un cœur débarrassé, débarrassé de l'impureté, débarrassé de la souillure, un cœur qui reste soumis à Dieu. Ce cœur-là, mes amis, peut entendre, mes amis, le bruit de l'Esprit, alléluia, peut entendre et aussi recevoir la pensée de l'Esprit pour une situation particulière, pour une situation spécifique. Mes amis, une telle parole, un tel rhéma reçu de Dieu est une véritable épée entre nos mains, une épée pour éloigner l'ennemi. Ce n'est pas en récitant les versets, comme ça vaille que vaille, que nous allons mettre l'ennemi en déroute. N'importe qui peut prendre cette Bible et la lire. On n'a pas besoin d'être forcément chrétien pour lire la parole de Dieu. Tous ceux qui étudient les Grecs, qui font la philologie biblique classique, eh bien finissent par étudier certains textes de la Bible du Nouveau Testament en grec, sans plus. Vous voyez ? Sans que l'étude, l'enseignement, la connaissance qu'ils reçoivent à partir du Nouveau Testament en grec puisse susciter un changement, une métamorphose, une transformation dans leur vie. Elle éloigne l'ennemi, elle détruit le doute, elle écrase le scepticisme, cette parole reçue de la part du Seigneur. Cette parole appelle la guérison. On peut lire des passages qui parlent de la guérison du Seigneur sans que cela puisse susciter la foi qui conduit à la guérison. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit éclaire ce passage. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit l'illumine, mes amis, puisque c'est le Saint-Esprit qui vivifie, c'est-à-dire qui donne la vie, qui communique la vie. Ça appelle la guérison. C'est cette parole, le réma, qui suscite, qui donne la foi. Et nous allons le voir, nous l'avons lu, Romains 10, verset 17. La foi vient de l'écoute, littéralement, on va en parler. Et l'écoute vient du réma du Christ, encore une fois. Vous voyez, mes amis, ce n'est pas le logos en général. Tout le monde lit la Bible. On l'étudie dans toutes les facultés de théologie, catholiques, protestantes, évangéliques ou autres. Et pourtant, tout le monde n'expérimente pas la puissance du Saint-Esprit. Et pourtant, il y en a qui la lisent avec des cœurs remplis d'incrédulité. Mais c'est simplement un objet d'étude intellectuelle. C'est seulement un objet pour acquérir une certaine connaissance académique, sans plus. Nous devons savoir, chers frères et sœurs, que la parole écrite, telle que nous la trouvons dans la Bible, si elle demeure essentiellement doctrinale, oui, nous avons besoin de doctrine, mais si cette parole demeure essentiellement doctrinale, conceptuelle, intellectuelle, eh bien, elle ne créera pas cette foi, mes amis, qui vient du réma du Christ, foi qui nous amènera entrer dans l'univers des miracles qui transformera nos impossibilités en possibilités. Car rien n'est impossible à Dieu. Oh, alléluia. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, tout rhéma, mes amis, est appelé à devenir une réalité palpable, peu importe les conditions qui nous environnent. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Oui, cette connaissance académique, cette connaissance doctrinale, où vous pouvez connaître toute la doctrine, vous pouvez la réciter par cœur, vous pouvez réciter tous les credos que vous voulez, sans que cela puisse avoir un impact un impact puissant dans votre vie. Nous croyons que ceci, nous croyons que cela, que Jésus est né de ceci, qu'il est venu sur cette terre, qu'il a donné sa vie à la croix. Et je peux vous dire que même avec ça, et avec de cœurs remplis de péchés, de cœurs froids, glaciaux, l'ennemi est à côté et lui sourit. Jusqu'à ce que c'est le gosse devienne le rhème. À ce moment-là, ça devient un glaive dirigé contre lui. Oh, alléluia! L'homme ne vivra pas de la parole de Dieu, du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Je reviendrai sur ce concept. Voilà. Pas forcément ce qui est écrit. C'est ce qui est important. Et c'est écrit, ce qui est écrit devient vie pour nous lorsque le Seigneur est avec nous. Alors que nous vivons, nous nous appuyons sur ce qui est écrit, qui est le véhicule qui nous porte. Il arrivera qu'à un moment où nous serons comme à la croisée de chemin. Dans quelle direction aller? Dois-je tourner à gauche? Dois-je tourner à droite? Dois-je aller tout droit? C'est là que le rhéma intervient. Et là, le Seigneur dit, non, va à droite. Oh, alléluia! Et souvent, c'est contre toutes sortes d'évidences. Là où il nous demande de tourner à droite, quand nous regardons, eh bien, tout nous paraît sombre. Voyez-vous? À gauche, oh là là, il y a un peu de lumière, il y a un peu de verdure, on voit des choses intéressantes, etc. Mais à droite, humainement parlant, on se serait dit, mais Seigneur, où est-ce que tu me conduis? Non, nous sommes appelés à marcher, non pas par la vue, non pas selon les circonstances favorables, bonnes, mais nous sommes appelés à marcher par la foi. Va, eh bien réponds, lève-toi et va. Peu importe là où il a dit, ce qui est formidable, c'est que lui a déjà préparé le chemin. Rappelez-vous de toute cette série de messages que nous avons vus sur la nécessité d'entrer dans sa destinée. Dieu a tout prévu. Dieu n'est pas surpris par l'aujourd'hui, par le jour, ce jour d'aujourd'hui, mes amis, pas du tout. Non, il savait. Voilà, je vous avais dit, le concepteur de ces bâtiments, et puis ensuite, l'architecte qui avait prévu tout ça, il était loin de s'imaginer que derrière ce projet qui au départ était destiné à accueillir des gens pour venir loger parce qu'il y avait un hôtel, pour venir boire et manger parce qu'il y avait un restaurant, pour venir s'amuser parce qu'il y avait des piscines, était loin de s'imaginer que Dieu avait déjà tout prévu, que dans le temps, dans le jour qui viendront, ce lieu servirait à accueillir sa gloire. C'est donc des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses que l'œil n'a pas vues, les choses qui nous sont montées au cœur des personnes. Les gens passaient ici, ils regardaient hôtel, bar, hôtel, restaurant, la borne, point barre. Mais Dieu lui avait un autre regard. Plus de 50 ans plus tard, après sa construction, eh bien ce lieu abrite, reçoit, non pas de gens pour venir s'enivrer, pour venir louer, se réjouir dans la présence de Bacchus, mais plutôt pour adorer le Seigneur de gloire. Alléluia. C'est le rhéma. À un moment, il y a une conviction. Il dit non, je dois tourner, je dois prendre cette route-là. C'est un sentier, je suis obligé de quitter l'autoroute, je suis obligé de quitter le boulevard. Mais lui qui m'envoie sur ce sentier, c'est pourquoi il m'envoie. Alors mon frère, ne tourne pas de regards inquiets, ne dis pas, mais oui, mais Seigneur, celui avec qui nous avons commencé, lui il est en train de continuer sur le boulevard, et moi tu m'amènes sur un sentier où je dois laisser l'automobile, pour commencer à marcher à pied, savoir où je dois mettre mon pied, eh bien, mon frère, ma soeur, accepte. Au terme de ce sentier, il y a la gloire du Christ. Gloire à Dieu. Cette parole, cette connaissance strictement théorique, théologique, académique, conceptuelle, intellectualiste, eh bien, ne peut pas changer un cœur. Nous ne sommes pas les seuls à lire les évangiles lors de nos offices. Aller dans différentes assemblées, dans différentes églises, dans différentes dénominations. Vous verrez que les gens lisent à quasiment toutes les grandes fêtes chrétiennes, que ce soit Pâques, que ce soit Pentecôte, que ce soit Noël, eh bien, dans les différentes assemblées, dans quasiment toutes les dénominations qui se réclament du christianisme, on lit des passages tirés de l'Évangile, oui ou non? Et pourtant, la mort règne, le péché règne, les gens, eh bien, sont sous toutes sortes d'emprises démoniaques et autres. On a beau lire la Bible, on aura beau la relire, on aura beau, mes amis, la répéter. Et ce qui est dangereux, c'est que ça peut même devenir une sorte de confession positive. Dès qu'il y a un problème, l'Éternel est mon berger, je ne m'inquiéterai rien. Amen. On répète comme des perroquets, comme des automates, des versets de la parole de Dieu. On aura beau acquérir une certaine connaissance théorique, mes amis, en apprenant par cœur la parole de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. On se réjouit. Voilà, voilà. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Amen. Ça, n'importe quel démon pourrait le répéter. Hein. Quand le diable est allé tenter le Seigneur au désert, il a utilisé la parole, hein? Oui ou non? Ah oui, une parole mutilée, sortie de son contexte. Mais en même temps, le Seigneur a réagi comment? Par la parole. Oh, alléluia! Oh, c'est une véritable épée, l'épée de l'esprit. Si la connaissance de la parole de Dieu reste théorique, une connaissance strictement livresque et cérébrale, eh bien, laissez-moi vous dire une chose, elle restera sans effet réel et pratique et n'aura aucun impact dans notre vie, aucune puissance. Elle sera lettre morte. Cette expression ne vient pas de moi. Cette expression, ce qui est grave, se trouve dans la Bible. Qu'est-ce que Paul dit? Voyez-vous, dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6, Paul dit, l'apôtre bien-aimé, la lettre tue, cependant, l'esprit vivifie, c'est-à-dire l'esprit donne la vie, c'est-à-dire l'esprit fait vivre. Et tout ce qui sort de la bouche de Dieu, par le Saint-Esprit, est porteur de vie et finit par devenir une réalité palpable et tangible, quel que soit le contexte. Ne limitons pas Dieu. Mes amis, marchons dans la sainteté. Cherchons cette communion intime avec le Seigneur jour après jour. Cette communion va préparer nos cœurs, mes amis, à entendre la voix de l'Esprit lorsqu'il nous parlera. D'entendre le crépitement de l'univers de Dieu. C'est comme quand un volcan veut entrer en éruption. Il y a des signes annonciateurs, n'est-ce pas? Il y a d'abord de petites secousses, voilà, que l'homme, dans la plupart des cas, ne saisit pas, n'appréhende pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette capacité-là. D'où il faut des appareils, des détections de tous ces mouvements sismiques. Et ce sont ces appareils placés à des endroits bien spécifiques qui vont montrer qu'en effet, la Terre est en train de commence à trembler, et c'est un prélude, c'est un commencement à un grand tremblement de terre qui s'annonce. Et nous aussi, avec des cœurs complètement absorbés par la présence de Dieu, des cœurs qui trouvent du plaisir à s'attarder dans la présence de Dieu, des cœurs qui restent devant le Seigneur, qui restent en communion avec le Saint-Esprit, eh bien, ces cœurs-là sont capables d'entendre le gémissement de l'Esprit. Oh, alléluia, d'entendre, mes amis, le murmure de l'Esprit et de se dire, j'ai entendu la prière. Il n'y a rien qui me montre que cette porte est celle qui donne vers ma destinée, mais Dieu m'a dit, j'ai la conviction, le Saint-Esprit m'a donné l'assurance et je pars. Et dans la plupart des cas, les gens, ceux qui sont autour de vous, vont vous prendre pour un fou, pour un illuminé, pour un homme en délire prophétique ou visionnaire, tout ce que vous voulez, alors qu'en réalité, vous, vous avez perçu ce que les autres n'ont pas entendu. Gloire à Dieu. L'être est morte. Qu'est-ce que Paul dit aux Juifs? Les Juifs ont toujours lu l'Écriture sainte, tout l'Ancien Testament, leur Bible, le Tanakh. Vous voyez? Donc, le livre de Moïse, les autres livres, et puis ensuite, les livres des prophètes. Les mêmes livres que nous avons. Hein? Voilà. Ils ont toujours lu ça. Mais écoutez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens, si on peut mettre ce passage. 2 Corinthiens, à partir du verset 14. Écoutez ce qu'ils disent à propos des Juifs, qui à l'époque du Nouveau Testament, quand il écrit, lisait l'Ancien Testament et les lise encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose, c'est le même texte massorétique. Pour ceux qui aiment bien les termes techniques, qui veulent apprendre. Hein. Eh bien, c'est le même texte que nous avons. Qu'est-ce que Paul nous dit? Mais ils se sont endurcis dans leurs pensées. Car jusqu'à ce jour, et je pourrais ajouter encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Quand ils font la lecture, quand ils font la lecture de Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne, car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure, il n'est pas enlevé parce qu'il n'est disparaît qu'en Christ. Oh, alléluia. 14, 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et il termine en disant, nous tous, qui le visage dévoilé, puisque nous nous sommes tournés vers le Seigneur, eh bien, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, nous sommes métamorphosés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est donc l'Esprit qui accomplit ce travail de transformation, de régénération en nous. Quand ils lisent encore Moïse aujourd'hui, il y a un voile. Et pourtant, combien de fois Dieu m'a parlé par l'Ancien Testament, de manière spécifique. Alléluia. Il m'a donné le rhéma à partir d'un passage de l'Ancien Testament, le même passage que les Juifs lisent encore aujourd'hui. Je me suis levé, j'avais cette conviction que Dieu avait entendu ma prière. Et aujourd'hui, je peux témoigner. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Je ne suis pas le seul. Et pourtant, et ils lisent, hein? Mais il n'y a rien qui se passe. Et pourtant, ils ont le logos. Ils ont la parole écrite. Tout est là, hein? Mais il n'y a rien, absolument rien qui se passe. Mes amis, la parole de Dieu est comme un combustible. Vous savez, un combustible, c'est une matière dont la combustion produit de la chaleur, mais alors de chaleur utilisable. Et nous, nous avons besoin de la chaleur du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous avons besoin de la chaleur de l'Esprit. Eh bien, la parole est comme un combustible. Sans l'étincelle, sans la flamme de l'Esprit, eh bien, il n'y aura pas de feu, il n'y aura pas de chaleur. Cette Bible reste lettre morte. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui dans des synagogues. À chaque occasion, on vient avec le rouleau. Si c'est le rouleau d'Ésaïe, si c'est le chapitre 53, on va lire. Mais sans voir que ce dont Ésaïe a parlé il y a 8 siècles avant, eh bien, c'est déjà réalisé par la venue. Et pourtant, ils lisent encore. Pour nous, c'est déjà accompli. Alléluia. C'est écrit une fois pour toutes. Quelqu'un ne peut pas dire, oh, Dieu m'a donné le rhéma là-bas. Mais non, tu vas faire quoi? Jésus est déjà venu, il a tout accompli. Tout ce qu'il nous demande, c'est de croire. Tout ce qu'il nous demande, c'est de se dire, ah oui, sa mort a même été prophétisée quelques siècles avant sa venue ici-bas. Oui, c'est le Saint-Esprit qui transforme le Logos en Réma. Si vous regardez à votre propre vie, je parle de tous ceux qui marchent avec le Seigneur, qui sont en communion avec lui, qui méditent, qui lisent, qui étudient la parole de Dieu. Vous avez certainement fait cette expérience. J'en ai touché un mot la fois dernière. On lit un verset ou un passage de la Bible plusieurs fois sans que quelque chose se passe. On a toujours lu ce passage. Voilà. On l'a relu à plusieurs reprises et puis un jour. Et puis un jour, quelque chose de particulier se passe. Un jour, le même verset devient si clair, devient si vivant, si brillant pour nous, qu'il finit par s'imposer à nous et par devenir une réalité vivante. Ça peut être une guérison. Vous avez toujours lu par ces guérisons, par ce meurtrissure. Nous avons la guérison, mais sans plus. Et puis un jour, alors que vous étiez en communion avec le Seigneur, je vous avais donné mon témoignage, le même passage, tout d'un coup, eh bien, s'impose à vous. Le même passage commence à dégager de la vie, commence à vous éclairer, commence à vous illuminer et finit par devenir une réalité dans votre vie. Voilà ce qui arrive, mes amis, lorsque le Logos devient le Réma. Alléluia. Le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 23, c'est l'Esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Littéralement, c'est l'Esprit qui vivifie. Les Réma que je vous ai dites sont esprit et vie. Formidable. Jean 6, verset 63. Voilà donc ce que nous pouvons dire à propos du verset 17 d'Éphésiens 6. Voilà. Prenez l'épée de l'Esprit, qui est donc le Réma de Dieu. Vous êtes avec moi? Ce n'est pas le moment d'intercéder, c'est le moment d'écouter. Maintenant, vous pouvez écouter, intercéder pour moi. Voyez-vous, parce qu'il y en a qui viennent, comme quelqu'un m'a témoigné. Il est où? Il est là, hein? Notre jeune frère, des sorciers, je ne sais pas s'ils sont venus ici. Lui ne savait pas, il est passé par une maison. Il a dit, ah mais votre pasteur là, il a de la magie ou des histoires comme ça. Nous avons tout fait pour les déstabiliser. Quand il prêche, nous ne sommes jamais arrivés. Et puis nous sommes partis, on n'est plus revenus. Et oui, il y a une lumière ici. Plaise à Dieu qu'il revienne, cette fois-ci pour se convertir. C'est pourquoi ne tremble pas. Oh, c'est un sorcier. Oh là 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 là. Tous les bandes, on le connaît. Celui qui est à la tête de la corporation des sorciers du Kwango. Oh, celui, c'est pas possible. Il a ceci, il a cela. Eh bien, rendez grâce à Dieu. Cherchez même à le voir. Ne le craignez pas. Ne tremblez pas de peur que Dieu vous fasse trembler. Vous devez aller, c'est à lui de trembler, car celui qui est en vous, Jésus-Christ de Nazareth, est tout puissant, il n'a pas changé, le Seigneur de gloire, sa parole est une épée, est un glaive, oh alléluia. Priez, dites Seigneur, donne-moi une parole pour cet homme-là. Mets le Réma en moi et j'irai. Et quand vous partirez, ça serait comme le prophète Élie face au prophète des Baals. Ils ont invoqué leur Baal. Ils se sont même fait des incisions. Leur sang coulait. Le ciel est resté fermé. Ils ont crié au point où ils ont perdu leur voix. Et Élie, avec son humour, hein, il dit, mais criez encore fort. Hein, peut-être que votre Dieu là, il dort, et en criant très fort, vous allez les réveiller. Ils ont crié, ils se sont fait des incisions, eh bien le sang a coulé, le ciel ne s'est pas ouvert. Car il n'y a qu'un seul sang qui a ouvert le ciel. Alléluia.
C'est le sang qui a coulé au calvaire. C'est le sang qui a été versé par lui, Jésus de Nazareth. Par lui, notre Sauveur bien-aimé. Par lui, le Seigneur des Seigneurs. Ce Dieu-là mérite nos acclamations ce matin. Gloire à Dieu. Marchons avec Dieu, marchons par l'Esprit, alors nous irons de gloire en gloire. Marcher par l'Esprit, c'est marcher en étant attentif, en étant réceptif au rhéma de l'Esprit. Oh, alléluia. Et à chaque fois qu'il dépose une pensée sur nous, quand nous la présentons aux gens, cette pensée transperce le cœur. Oh, alléluia. Cette pensée devient une véritable épée à double tranchant pour mettre en déroute n'importe quel adversaire. Voilà. Et enfin, Romains 10, je reviendrai là-dessus, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et je crois qu'il faudra que je le fasse sous forme d'un séminaire. Vous êtes d'accord avec moi? Alors il faudra prier pour que nous anéantissons ces virus qui nous empoisonnent la vie depuis l'année dernière. Romains 10, 17. Ainsi la foi, c'est le deuxième exemple pratique, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ, c'est-à-dire vient du rhéma du Christ. Voilà. Littéralement. La Bible nous dit, ainsi la foi vient de l'écoute. Et l'écoute par et à travers le rhéma du Christ. Ça change tout. Vient de l'écoute. Voilà. Ce que nous avons traduit par ce qu'on entend. On entend beaucoup de choses. Voilà. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il n'est pas dit, nécessairement ce qu'on lit. On peut lire beaucoup de versets sans que cela suscite cette écoute de l'Esprit qui nous amène à recevoir le rhéma de Dieu. Qu'est-ce que c'est une écoute? Je ne vais pas vous apprendre le français, vous le parlez mieux que moi. L'écoute, c'est quoi? C'est l'action d'écouter quelqu'un ou d'écouter quelque chose, une émission radio, écouter une prédication sur notre radio, la parole éternelle. Mais l'écoute, c'est aussi une capacité. Voilà. C'est aussi une capacité à être attentif et réceptif à la parole d'autrui. Et en l'occurrence, ici, à la parole du Saint-Esprit. C'est ça l'écoute. Ce n'est pas seulement la foi vient de ce qu'on entend. Voilà. La foi vient de l'écoute. Et l'écoute à travers le rhéma du Christ. Donc, à travers cette capacité, mes amis, à être attentif et réceptif. L'attention, la réceptivité. Voilà. Voilà les deux conditions qui déterminent l'écoute, l'état, qui nous amène à avoir cette capacité à être attentif lorsque le Saint-Esprit commence à déposer quelque chose sur nos cœurs. Lorsque le Saint-Esprit commence à rendre vivant ce verset que nous venons de lire. Là, au-delà de la lettre, mes amis, il y a comme une porte qui s'ouvre vers le Saint-Esprit, le feu de Dieu. Et ce feu, au travers de ce verset, commence à dégager de la chaleur. Et notre cœur, tout d'un coup, se met à chauffer. Et la chaleur et cet échauffement, ou ce chauffement, eh bien, se manifeste par une conviction qui naît. C'est le moment. Oh, alléluia. C'est le moment. Aucune météo, aucune évidence météorologique. Mais Élie a su, sur le mont Carmel, que Dieu avait entendu sa prière. Avant même qu'il y ait un gros nuage, je reviendrai là-dessus. Il a dit à son jeune serviteur, va dire à Acab, au roi, à ce roi impie, à ce roi idolâtre, va lui dire qu'il fasse vite. S'il traîne, la pluie va le surprendre. Il fallait oser. Hein? C'est un roi méchant. Hein? Ce roi aurait pu dire, oh là là, il joue avec moi, ce prophète. Il fallait une conviction intérieure. Il n'y avait aucune évidence météorologique. Monsieur Météo, à l'époque, ici chez nous, il y avait le service météo, je ne sais pas s'il a repris, mais malheureusement, tout l'espace a été mis en lotissement, hélas. Hélas. À l'époque, c'était une belle forêt. Voilà. Moi, je crois que nous devons prier hein, contre cette folie immobilière qui s'est emparée de nous autres Congolais. Même là où il y avait des terrains, où les enfants jouaient. Parce que vous devenez colonel ou général, vous avez tout le pouvoir. Vous téléphonez Christophe Okitatuku, il est là. C'est parce qu'il est aux affaires, il est aux affaires foncières. Il faut prier pour lui, que le Seigneur puisse lui donner une promotion. Ah mon général, Yaka, tout se fait dans ton bureau. Et aujourd'hui, Kinshasa est défiguré. Il n'y a même plus de trottoir. Laissez-moi vous le dire. Nous nous plaisons à aller à Paris. Oh, c'est beau et tout ça. Et chez nous, qu'est-ce que nous en faisons? Comme quelqu'un avait dit, mais il venait de Paris, il dit, c'est pas possible. Je suis venu à Kinshasa, en Afrique, et je me suis rendu compte qu'il y a moins d'arbres à Kinshasa qu'à Paris. Vous trouvez normal? Est-ce qu'il y a la forêt équatoriale en France? Hein? Enfin bref. Donc, je reviens à ce que je disais, l'écoute. On entend, tac, 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 le crépitement. Et puis, ce crépitement, avec le temps, commence à prendre corps, à prendre forme et à s'imposer à notre esprit. Et nous disons, oui Seigneur, merci car tu as agi. Je n'ai plus rien à craindre. Tu as entendu ma voix, tu as entendu mon cri, je peux avancer. Et encore au verset 8, nous l'avons lu. Qu'est dit-elle la justice qui vient de la foi? La parole, c'est-à-dire le réma est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est le réma de la foi que nous prêchons, mes amis. C'est ça. Qu'est dit-elle donc? Qu'est-ce que cette justice qui vient par la foi, dit-elle? Eh bien, le réma est près de toi. Tu n'as pas besoin d'aller sur une planète quelque part, non. Le réma est où? Près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de, c'est le réma de la foi que nous prêchons. Alléluia. Nous devons recevoir, il n'est pas loin. Le Saint-Esprit est avec nous. Donc, il y a moyen que cette parole, ce réma dans notre cœur, finisse par arriver dans notre bouche et que de notre bouche, nous la proclamions pour finalement voir des résultats extraordinaires. Donc nous voyons qu'il ne s'agit pas de la parole de Dieu en général. Quand il est dans Romains 10, verset 8 et verset 17, mais il ne s'agit pas d'une parole théorique, d'une vérité doctrinale ou morale. Il s'agit plutôt d'une parole vivante, d'une parole personnelle, reçue de la part du Saint-Esprit. C'est en recevant par le Saint-Esprit l'illumination d'un verset, et aussi en recevant du même Saint-Esprit une conviction dans le cœur, qu'alors nous bénéficierons et nous recevrons des instructions. Si nous sommes à la recherche des instructions, nous recevrons des directives, des réponses et des lumières dont nous avons besoin. N'oublions pas, et je vais terminer, la connaissance académique, la connaissance intellectuelle, théorique de la parole de Dieu ne créera jamais cette foi. Pas du tout. On peut la lire, on peut l'étudier. Voyez-vous? Tout au plus, cette connaissance peut confirmer en lisant et puis on arrive à la déduction. Ah oui, c'est vrai. La loi est vaine. La loi a été donnée à l'homme, non pas pour le sauver, mais pour lui montrer qu'il est pécheur et en même temps, pour lui montrer que parce qu'il est pécheur, eh bien, il subira la condamnation de Dieu, le jugement de Dieu, sans plus. Et puis, on dit, ah, la justice par la foi. Oui, c'est vrai, Jésus, on tire des conclusions. Ça confirme. Mais ça, cette connaissance-là, ne vous amènera jamais, mes amis, dans les profondeurs et dans les hauteurs de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, l'Église est de plus en plus friande de la connaissance académique. Mais cette connaissance religieuse, sans l'intervention, la lumière du Saint-Esprit, peut même nous mener tout droit à l'orgueil. Vous savez ça? À la grandiloquence. J'ai déjà entendu des discours. Ah oui, mais il prêche, il n'a pas été à l'école biblique ou dans une faculté de théologie. Vous avez déjà entendu ça? Eh bien voilà, ça c'est une dérive. Et aujourd'hui, et c'est d'ailleurs la question que je voudrais poser à chacun de nous, et je terminerai par là. Qu'est-ce qui apporte aujourd'hui la notoriété ou la visibilité aux ouvriers dans l'Église en général? Qu'est-ce qui donne la visibilité? Qu'est-ce qui donne, mes amis, la notoriété? Est-ce, écoutez-moi bien, est-ce la connaissance vraie du Christ, la communion avec le Saint-Esprit, l'engagement vis-à-vis de lui, la marche par l'Esprit, ou alors c'est le nombre d'années d'études en théologie avec les diplômes qui en résultent? Voyez-vous, il y a un attrait vers le savoir théologique aujourd'hui. Je suis beaucoup, moi-même j'ai enseigné pendant des années. J'ai lu des articles de certains enseignants, de docteurs en théologie, qui mettaient en garde, surtout les églises, les écoles bibliques et les facultés de théologie, des mouvements pentecôtistes, de ce qu'on met de plus en plus l'accent sur la formation académique. Alors les gens arborent fièrement dans leur bureau tous leurs titres académiques. Voyez? Et ça fait leur fierté. Ce n'est pas ça qui devrait faire notre notoriété, mais plutôt la marche dans la crainte de Dieu, la communion avec le Saint-Esprit, la marche avec l'Esprit de Dieu. Voyez? Et beaucoup, à cause de leur diplôme, sont devenus extrêmement critiques. Or, pendant qu'on prêche, lui, il est là, il fait appel à toutes ses connaissances théologiques pour essayer de critiquer, oubliant que tout cela, tu fais une critique à partir de ce que tu sais, oui ou non? Ouais? Donc, si vous regardez la lune et que vous n'êtes pas astronome, vous pourriez voir simplement une boule, oh, la lune et tout ça. Mais quelqu'un qui est scientifique va avoir une autre observation, n'est-ce pas? Voilà, il va dire ceci, il va dire cela. Donc, toi, tu dis ce que tu vois. Donc, quand tu critiques là, tu critiques à partir de ce que tu sais, mais tu n'es pas la référence absolue de la connaissance et du savoir. Donc, il n'est pas dit que ce que tu critiques là est fondé, ou ta critique est fondée. Il est vrai que pour certaines choses, c'est manifeste. Si quelqu'un vient ici, vous commence à vous raconter des sornettes, des salades, ah oui, mais vous savez, il y a Jésus, mais il y a aussi le salut en s'asseyant sur le sang d'un corbeau. Eh bien, je suis convaincu que vous vous lèverez tout de suite. Hé, frère, nous vous enjoignons de quitter la chair. Oui ou non? Mais il y a deux choses. Il faut rester modeste. Il faut rester modeste. Nous sommes ici, et je terminerai par là. Où que vous alliez aujourd'hui, à travers tous les territoires de la RDC, dans toutes les grandes villes, mais aussi dans des villes moyennes, et même au-delà de notre territoire, vous verrez qu'il y a à chaque fois une église qui se réclame de la borne. N'est-ce pas? L'homme qui a été à la base de cette vision n'a pas eu de doctorat en théologie. Il a fait juste 3 ans d'école biblique, les nécessaires, mais il a été un homme de foi. Il a été un homme qui savait entendre la voix de l'Esprit. Et du reste, s'il a traversé le fleuve Congo, quitté Brazzaville pour venir ici à Léopoldville, à l'époque, c'était sur instruction du Seigneur. C'était le réma de Dieu
que Dieu avait déposé en lui. Il est venu et petit à petit, cette église a vu le jour. Pour ceux qui l'ont connu, et je peux comprendre pourquoi il avait cette vision d'ouvrir une école biblique, vie esprit. On avait des conseillers, oui, on a d'autres institutions de formation, mais je crois qu'il avait une vision claire. Avec le temps, je le réalise. Dans son bureau, vous ne pouviez pas voir des titres académiques. Maintenant, si vous les avez, vous les affichez. Alors soyez à la hauteur de ces titres. Soyez un homme vraiment de l'esprit, un homme humble. Parce que la connaissance enfle, la connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. Ce qu'il y avait au mur, c'était des titres de reconnaissance de certains États américains, où il avait été, pas récompensé, pas non plus ennobli, hein, il y a un terme honoré, voilà. Honoré par tel État, ça il mettait, c'est tout. Et pourtant, encore aujourd'hui, ce qu'il a commencé, que le Seigneur a commencé par lui, se poursuit encore. Mais aujourd'hui, nous mettons beaucoup d'accent. Quand quelqu'un veut faire quelque chose, dit, il a été à la Libertad, il a été à la FATAD, il a été au CTS, il a été à la faculté protestante. Arrêtez avec ça. Hein. Moi, j'ai été consacré ici par le pasteur Jacques Verneau comme prédicateur. Je prêchais cette parole, je n'avais pas encore été à la parole. Ah, comment ? Je n'avais pas encore fait mes études bibliques et théologiques, et puis ensuite mes études philologiques. Pas encore. Et pourtant, je prêchais. Alors, si vous voyez Papa Batou prêcher, ne dites pas, mais est-ce qu'il a un diplôme de Libertad ? Le jour où j'apprends, je vous mets sous discipline. La formation est indispensable, mais nous ne devons pas en faire le but suprême. Voilà, aujourd'hui, moi j'ai vu des Congolais, il y a une filière aux États-Unis en 3 ans, tu as un doctorat en théologie. Alors tous les Congolais se sont précipités. Et la thèse, vous savez quoi? On vous envoie des questions, vous répondez. On vous envoie des questions sur la Bible, hein, vous répondez. Et puis vous faites un petit travail, au terme de 2 ans ou 3 ans, vous êtes déclaré docteur. Et tout ça, vous savez pourquoi? Parce que les gens affectionnent d'avoir cette particule DR devant leur nom. Vous avez compris. C'est rare de mettre EV, évangéliste. Non, non. Même AP, apôtre. Non. Même SR. Enfin, ça serait sœur, mais serviteur. Non, DR. DR. Et quand vous arrivez, on commence. Moi, j'avais interdit, ça c'est connu. Hein. Vous pouvez demander au révérend que je salue. Par ailleurs, Sangomalam, je prêche, il m'invitait hein, souvent à aller animer des campagnes, vous vous rappelez, hein, le premier dimanche de chaque mois. Et un jour, la première fois que j'avais été, j'avais parlé avec eux, je ne veux pas commencer à passer tout votre temps à dire tout mon cursus théologique, philologique, etc. Et il avait dit, lui n'aime pas ça. Et j'avais beaucoup aimé. Vous me recevez en tant que serviteur et prédicateur de la parole. Vous ne me recevez pas en tant que docteur, en tant que maître en théologie. Ça, c'est, vous gardez ça. Voyez, c'est ça. Je reviendrai là-dessus parce que ça tue l'Église aujourd'hui. J'ai vu des tendances. Voilà. On m'a même dit que, ici, moi je dis les choses ouvertement, hein. Avant que je reprenne, on m'avait dit, oh là là, pasteur, il y a 2 tendances ici. Vous avez d'un côté les fatadistes et de l'autre côté les ibétadistes. Alors les uns méprisent les autres. Et je suis convaincu que depuis, les choses ont changé. Nous devons arrêter avec ça. Ce n'est pas la formation qui appelle. Non, on a d'abord l'appel. Et on va à la formation simplement pour être prêt. Et même la formation, c'est un savoir qui est appelé à être embrasé, enflammé par le feu du Saint-Esprit. Acclamons son nom.